Si vous êtes attendu, la statistique, le graphique du FMI s'arrête en 2007-2008, c'est-à-dire juste avant l'éclatement de la crise actuelle. Mais si vous regardez attentivement la fin du graphique, on voit déjà s'amorcer une nouvelle chute de la rentabilité du capital qui est prémonitoire par rapport à l'éclatement de la crise financière dont je vais parler dans un instant et qui montre bien que la finance a fini par exploser en plein vol à force d'avoir cru qu'elle pouvait s'autonomiser de ce qui se passait dans le système productif, devenir en quelque sorte autosuffisante, la finance pouvant créer de la richesse par elle-même. C'est une fiction, bien sûr, que la crise vient de mettre à bas. Mais n'anticipons pas, attendons un peu la suite. Donc on est dans cette situation où la part des salaires diminue partout, et donc ça produit une explosion des inégalités pendant que le chômage augmente dans le monde entier. Là, le graphique porte sur les États-Unis, mais on a le même pour la France. Alors, je ne vais pas vous abreuver de trop de statistiques, mais regardez encore une seconde celui-là, et qui a l'avantage de montrer ce qui s'est passé aux États-Unis sur l'ensemble du XXe siècle, quasiment, c'est-à-dire depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Donc il y a trois périodes. On a une première période, alors pardon, il y a trois courbes qui portent sur les 1% les plus riches en bas, en noir, sur les 5% les plus riches et sur les 10% les plus riches en vert, en haut. Il y a trois périodes. Du début jusqu'au milieu des années, disons, 30-40, il y a une chute des inégalités. Donc la part empochée par les 1% les plus riches diminue, comme celle empochée par les 5 et par les 10% les plus riches. Ça diminue. Pourquoi ça diminue? Parce que c'est le moment où, dans les pays capitalistes développés, on invente un impôt progressif sur le revenu. Et donc, ça produit une diminution des inégalités. Mais, et donc, les choses se stabilisent jusqu'aux années dont je viens de parler, c'est-à-dire jusqu'aux années 70-80. Et vous constatez que, à partir des années 80, les inégalités repartent à la hausse. C'est-à-dire que la part de la richesse empochée par les 1% les plus riches double, elle passe de moins de 10% à 20%, la part des 5% passe de 21-22 à après 35, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir dans vos têtes faire le lien avec la conférence de Vincent Drosé que vous avez écoutée la semaine dernière, si j'ai bien compris, où il vous a expliqué que l'essentiel en tout cas une bonne part de l'explosion de ces inégalités provenait du fait qu'il y avait une défiscalisation des riches et qui a abouti donc au redémarrage des inégalités. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous regardez la fin de mon premier graphique, je vous le remontre, vous voyez donc s'amorcer ici une nouvelle chute de la rentabilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000, 2005, 2006 et qui va provoquer la déflagration de 2007-2008? Il s'est passé la chose suivante, c'est que le fait qu'il y ait eu une rupture des salaires par rapport à l'évolution de la richesse produite, donc la baisse de la part salariale, la baisse de la part des salaires, le chômage, et le fait que corrélativement les dividendes versés aux actionnaires, donc la part des profits qui est versée chaque année par les grandes sociétés, principalement à leurs actionnaires, provenant des profits, cette part-là s'est envolée. Que faire de cette montée vertigineuse des profits empochés par ceux qui sont déjà gavés jusqu'au cou? Eh bien, quand ils ont, et l'exemple des États-Unis est flagrant, c'est à une échelle un petit peu moindre dans les pays européens, quoique, mais lorsque vous avez dans les ménages les plus riches qui possèdent des actions, lorsque vous avez déjà 3, 4, 4 ou 4, lorsque vous avez déjà 2 baraques ou 3 résidences secondaires, bon, il y a un moment où vous ne pouvez plus consommer. Et donc vous faites dériver les masses d'argent que vous récoltez vers les placements financiers, qui vont nourrir tout ce qu'on a appelé sous le terme de financiarisation de l'économie mondiale. Et donc la finance mondiale, qui s'est développée à un rythme échevelé au cours de ces années-là, elle se trouve confrontée à une situation qui va exploser à partir du milieu des années 2000, et donc avec la déflagration de 2007. Pourquoi? Parce que si la richesse produite augmente plus vite que la part des salaires, mesurée globalement, ou des salaires individuels, si vous le prenez à l'échelle des individus, eh bien, il se produit progressivement une difficulté pour écouler la marchandise produite par le système capitaliste. Donc, vous n'avez pas un seul secteur industriel au monde qui ne soit pas en surproduction, en surcapacité de production. Tous les constructeurs automobiles, par exemple, ont des parcs de voitures neuves qui ne peuvent pas écouler. Il n'y a aucun fabricant d'automobile qui ne soit pas dans cette situation-là. Et le même phénomène se produit dans l'ensemble des grands secteurs, soit le secteur de la chimie, de la pétrochimie, de la métallurgie, surproduction. Aux États-Unis, qui est l'économie dominante, ils ont cru trouver la parade à cette contradiction. La demande n'arrive pas à éponger la surproduction. Ils ont cru trouver la parade en inversant le fameux proverbe « on ne prête qu'aux riches ». Vous connaissez ce proverbe. Là, ils ont inventé la formule « on prête aux pauvres ». On prête aux pauvres même lorsque la solvabilité des emprunteurs n'est pas certaine. Et donc vous avez eu, pendant la décennie 90 et le début de la décennie 2000, tout un emballement du crédit qui est né parce que le système bancaire a fait signer aux emprunteurs, aux ménages emprunteurs, et qui le plus souvent étaient modestes, leur a fait signer des hypothèques qui ont pris de la valeur tant que le prix de l'immobilier sur lequel étaient fondées ces hypothèques montait, mais lorsque les prix de de l'immobilier et de logement s'est retourné, à ce moment-là, ces hypothèques ne valaient plus rien, ou en tout cas valaient beaucoup moins. Mais vous me direz, les banques n'avaient-elles donc pas prévu cela? Si, elles l'avaient prévu. Elles savaient que le prix de l'immobilier ne monterait pas jusqu'au ciel. Et elles savaient en plus que les ménages à qui elles avaient accordé des prêts moyennant cette hypothèque n'étaient pas certaines de pouvoir rembourser. Qu'est-ce qu'elles avaient donc fait? En prévoyant ces moments-là, les banques. Et bien, les banques avaient, selon une expression que vous avez peut-être lue dans les journaux, détrisé leurs hypothèques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le morceau de papier que les banques avaient fait signer à M. Smith, qui avait emprunté 50 000 dollars sous la réserve d'hypothéquer l'immeuble ou l'appartement qu'il voulait acheter, ou bien qui voulait payer des études à ses enfants, mais comme ses revenus n'étaient pas suffisants, donc il avait hypothéqué l'allogement qu'il possédait déjà, les banques avaient titrisé, c'est-à-dire remis en circulation ces morceaux de papier qui étaient devenus des titres financiers circulant dans tout le système bancaire et financier. Et donc c'est ce qu'on a appelé le phénomène de la titrisation, c'est-à-dire de la transformation d'un vulgaire bout de papier où il y avait une somme et une signature en titres financiers. Et les banques remettent, ne gardent pas ces hypothèques dans leur tiroir, elles les remettent en circulation. Et comme les capitaux circulent, donc vous n'oubliez pas mon premier point que j'ai indiqué tout à l'heure, les capitaux circulent à toute vitesse, donc toutes les banques font pareil et ces morceaux de papier titrisés se mettent à circuler dans le monde entier et se trouvent répartis dans les bilans de toutes les banques, donc en tout cas de toutes les grandes banques dans le monde. Le jour où les prix de l'immobilier se sont retournés, donc on est donc dans l'année 2006, début 2007, c'est la catastrophe parce que les banques sont là, prenant conscience du danger que représentait la possession dans leur bilan de titres douteux, en tout cas de créances qui n'étaient pas recouvrables systématiquement, à ce moment-là, les banques commencent à se regarder en chien de faïence et à ne plus pouvoir se prêter entre elles de l'argent. Parce qu'elle se disait, oui, mais mon collègue, mon concurrent, il veut de la monnaie liquide et en échange, il nous donne des titres qui ne valent plus rien. Et donc, toutes les banques raisonnent de la même façon et à ce moment-là, on est dans une situation que l'on appelle de crise de liquidité. C'est-à-dire que la monnaie, qui doit circuler pour faciliter les échanges économiques et les échanges financiers, la monnaie ne circule plus, en tout cas, elle circule moins. Alors, on est au mois d'août 2007. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les banques centrales, dont je vais reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, les banques centrales injectent des centaines de milliards de dollars, de yens, d'euros, de livres sterling, de francs suisses, etc. pour empêcher que cette crise de liquidité ne foute le système complètement par terre. On est donc à l'automne 2007, c'est Il y a des soubresauts tout le début de l'année 2008 et à l'automne 2008, nouveau branlement, il y a certaines banques qui font faillite ou certaines compagnies d'assurance qui font faillite et la plus célèbre étant celle qui était appelée Lehman Brothers, que le gouvernement américain et le responsable du Trésor américain et le responsable de la Banque centrale américaine décident de laisser tomber, de le déclarer en faillite. Mais ça provoque un effet de contagion sur l'ensemble des banques, puisque les capitaux circulants, tous les placements sont connectés les uns avec les autres, et donc les gigantesques quantités de dollars, de yens, d'euros injectés dans le circuit, ne suffisant pas, c'est au tour des États à injecter des centaines de milliards d'euros, de dollars, de yens, etc., etc. Et donc on va voir à ce moment-là apparaître donc le début de l'explosion de cette dette publique pour laquelle nous sommes réunis ce soir.